Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bonjour, bienvenue à tous. Nous allons continuer cette exploration de la neuroénergétique et tout particulièrement de l'interaction entre neurones et glies dans ce processus physiologique cérébral fondamental. La dernière fois, nous étions arrêtés sur un aspect de la neuroénergétique qui est en fait lié à la capacité réductrice des cellules. Je vous avais dit que, en fait, très schématiquement, on peut dire qu'il y a deux formes d'énergie cellulaire, une qui est peut-être plus que l'on aborde plus facilement, enfin qui est mieux connue, qui est l'ATP, la production d'ATP par la glycolyse et le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative, mais qu'il y a une autre forme d'énergie qui est le potentiel redox, qui est en fait contenu dans les équivalents réducteurs sous forme de NADH, qui bien sûr fait tourner, si vous me passez l'expression, la phosphorylation oxydative, mais également qui permet de notamment neutraliser les produits justement de cette phosphorylation oxydative, les produits secondaires indésirables que sont les radicaux libres sous forme de peroxyde d'hydrogène ou de radical hydroxyle, entre autres, qui sont donc des molécules hautement réactives, qui contiennent de l'oxygène hautement réactif, qui est hautement dommageable pour les tissus et les cellules et les éléments cellulaires. Et j'avais évoqué ce paradoxe qui fait que, enfin, une forme, on peut dire que c'est un paradoxe, qui fait que finalement, les neurones qui ont une activité oxydative très importante, donc qui produisent bien sûr de l'ATP pour faire face à leurs besoins énergétiques, mais en même temps, ils produisent de fortes quantités de radicaux libres, donc de ces molécules hautement réactives et dangereuses. Et que paradoxalement, en fait, ils sont relativement mal outillés pour se protéger contre ces radicaux libres, dans la mesure où ils sont dépendants des astrocytes pour synthétiser une molécule qui est essentielle pour cette neutralisation, qui est le glutathion, qui existe sous forme réduite et oxydée et qui a donc besoin aussi d'équivalents réducteurs pour pouvoir être régénéré. On a vu tout ça la dernière fois. Donc on a été resté à ce partenariat, cet autre partenariat neurone-glie, par lequel l'astrocyte, qui est capable de synthétiser du glutamate, notamment à partir de la cystine, ce que ne peut pas faire le neurone, libère du glutathion réduit qui, par un processus qui semble un peu laborieux, mais qui, pour l'instant, correspond aux données expérimentales, est ensuite clivé par une peptidase et produit ce dipeptide cystéine, pas cystine, mais cystéine-glycine, qui fournit les précurseurs pour la synthèse du tripeptide glutathion, le troisième élément étant le glutamate synthétisé à partir de la glutamine. Donc vous voyez que l'astrocyte fournit le précurseur, disons tous les précurseurs pour la synthèse de glutathion par le neurone. Je vous avais aussi montré que un élément fondamental pour la libération de glutathion par l'astrocyte est ce transporteur, le Multidrug Resistant Protein 1, MRP, ces manips avec des souris invalidées, des astrocytes préparés à partir de souris invalidées pour MRP montrent bien qu'il n'y a pas de libération de glutathion si les astrocytes n'expriment pas cette protéine. Et finalement, j'en étais resté sur un point intéressant, si vous voulez, dans tout ce lien, enfin, si on peut dire, tout se tient vraiment. C'est ça qui est assez formidable, je trouve, quand on explore de près la neuroénergétique, que finalement, le glutamate, qui, on l'a vu, active les neurones par le biais de récepteurs approprié, NMDA, AMPA, métabotrope, qui est recapté par les astrocytes et déclenche l'entrée de glucose et la production de lactate, donc tout ce qu'on a vu. En fait, des données tout à fait récentes montrent que ce glutamate, qui, tout de même, soit dit en passant, génère des radicaux libres, aussi, disons, surtout à des concentrations élevées, peut évoquer un stress oxydatif neuronal, eh bien, ce même glutamate est capable d'induire la libération de glutathion par l'astrocyte, et de telle sorte que, si on raisonne en termes un peu finalistes, les effets éventuellement indésirables du glutamate, par exemple le glutamate qui peut, en augmentant la formation de, les concentrations en calcium, activer la NO synthase, qui, elle, va produire des radicaux libres, eh bien, ces effets néfastes, on va dire, du glutathion peuvent être neutralisés en quelque sorte par le même signal, le glutamate stimulant la libération de glutathion qui va donc faciliter la neutralisation des radicaux libres qui auraient été éventuellement formés par cette activité neuronale. D'ailleurs, il n'y a pas besoin simplement de se concentrer, comme je l'ai dit, sur la NO-synthase. Tout simplement, l'activité neuronale qui va dissiper les gradients électrochimiques va aboutir à des augmentations des besoins énergétiques, on l'a vu à la toute première leçon, et que de toute façon la phosphorylation oxydative va être activée, donc il y aura de toute façon des radicaux libres suite à l'activité neuronale. Donc tout ça, si vous voulez, se tient. Continuons encore un tout petit peu. Là, il y a un autre paradoxe. En fait, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est comme un fil d'Ariane qu'on suit, et en le suivant, on découvre à chaque porte quelque chose de nouveau. Vous vous dites, voilà, tout ça est parfait. L'astrocyte produit le glutathion, qui est bon, clivé en cystéine et glycine, ou en cystéine et glycine, et ensuite fournit les précurseurs pour le pour la synthèse de glutathion neuronal. Mais il y a un paradoxe que j'aimerais rajouter, ça aussi c'est des données récentes. La cystéine, dont je viens de vous vanter les mérites comme précurseur pour la synthèse du glutathion, en fait, présente aussi des effets toxiques, neurotoxiques potentiels. Là, c'est un paradoxe. Alors, si vous voulez, je crois qu'on est en plein dans la découverte de toutes sortes d'effets de toutes ces molécules et les pièces du puzzle se mettent ensemble. Peut-être que certaines seront plus importantes que d'autres le moment venu quand on aura le tableau global, mais pour l'instant, il convient de relever tout ce que l'on observe. Et ce que l'on observe, et qui est en fait assez bien connu, c'est que la cystéine peut s'auto-oxyder, peut procéder à une auto-oxydation, notamment en présence cuivre. Et on sait que certains métaux, notamment le fer, peuvent activer la production de radicaux libres. Il se trouve que, le cuivre semble a une interaction particulière qui fait qu'il catalyse l'auto-oxydation de la cystéine, qui va donc produire, et cela a été mesuré in vivo et in vitro, qui va aboutir donc à la production de radicaux libres. Vous voyez qu'il y a là une sorte de paradoxe. Cette cystéine qui est produite pour, en principe, enfin qui est libérée par l'astrocyte pour, en principe, permettre la synthèse de glutathion qui va neutraliser ou aider à la neutralisation des radicaux libres, est elle-même produite par auto-oxydation en présence de cuivre des radicaux libres. Il y a donc là un paradoxe, mais enfin, voilà, ce sont les données expérimentales. Et ce qui a été observé, c'est qu'en fait, en même temps que l'astrocyte, qu'il fournit cette cystéine indirectement, il fournit également une manière de neutraliser les effets négatifs de la cystéine. C'est en fait, je vous l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, j'ai mis l'accent sur la libération de lactate par l'astrocyte, mais vous savez que le lactate et le pyruvate sont en équilibre dynamique, et je vous ai parlé de ce redox shift, cette théorie qui, me semble-t-il, est bien posée par Cerdan, qui indique une libération également de pyruvate par l'astrocyte et même par le neurone, donc en fait qu'il y a du pyruvate extracellulaire. Eh bien, le pyruvate est de manière tout tout à fait non enzymatique peut neutraliser, en fait, réagir avec le radical hydroxyle et produire du CO2 en donnant donc un CO. Il produit du CO2, il perd un carbone et donne produit du CO2 et de l'eau. Donc c'est une manière purement, on va dire, chimique de neutraliser des radicaux libres. C'est intéressant parce que là, ça a été mis en évidence relativement récemment. Dans le cas particulier, un peu paradoxal, comme je viens de vous le dire, de la cystéine. Mais en fait, dans cette maison, il y a quelques années, Joël Prémont, et en particulier une thésarde de l'époque, j'ai oublié son prénom, mais je me souviens que je l'ai connu, j'ai même probablement été... Comment ? Solange, voilà. Solange de Saguet ou de Saguer, j'étais d'ailleurs dans son comité de thèse, avait, entre autres choses, montré que effectivement le pyruvate exerce un effet neuroprotecteur, notamment par rapport à des stress oxydatifs. Vous avez ici la survie neuronale en condition contrôle, en présence de stress oxydatif et en présence de pyruvate. C'est quelque chose que le lactate ne fait pas. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un effet métabolique qu'on aurait pu s'imaginer parce que de régénération d'équivalent réducteur, c'est bien un effet purement chimique, c'est un effet dose-dépendant. Et en fait, certains cétoacides, kétoacides que l'on retrouve comme intermédiaires du cycle de Krebs, notamment l'alpha-cétoglutarate, et les aminoacides qui sont en relation avec eux, eh bien, ont aussi cet effet neuroprotecteur. Donc, il y a là quelque chose d'intéressant, si vous voulez. Il faut vraiment, on prend un fil et on suit une piste, et puis on voit que cette piste, en fait, interagit avec d'autres. C'est vraiment, c'est ça, finalement, la biochimie en général et la neurochimie en particulier. On voit donc que le pyruvate a un effet neuroprotecteur de par, disons, un effet purement chimique et pas par des voies enzymatiques ou métaboliques. Voilà, donc j'ai terminé sur cet aspect du potentiel redox et de son rôle important dans la neuroprotection et la protection en particulier du stress oxydatif. J'aimerais maintenant aborder un point qui a été longtemps controversé. Je vous ai dit que finalement, quand on a lancé ce nouveau modèle, cette théorie, la navette la navette astrocyte-neurone-lactate, on a évidemment calquer le trait, on va dire, dans le sens qu'on a présenté les choses un tout petit peu noir ou blanc, c'est-à-dire en disant, voilà, le glutamate stimule la glycolyse dans l'astrocyte qui produit du lactate, et ce lactate est oxydé dans les neurones. Et ceci a amené un peu à notre, comme dirait le célèbre cycliste, à l'insu de notre plein gré, a amené au fait qu'on a peut-être un peu laissé dire ça, c'est que les astrocytes étaient glycolytiques et les neurones oxydatifs, comme si quelque chose de très manichéen. Et on l'a laissé aller parce que, comme je vous ai dit, il fallait quand même modifier les esprits, la vision des choses. Jusqu'alors, finalement, les astrocytes étaient là sans un rôle vraiment important du point de vue métabolique. Donc, on a calqué peut-être le trait. Ce qui a amené, comme je vous ai dit, à cette vision un peu manichéenne, l'astrocyte glycolytique, comme s'il n'avait pas, finalement, de cycle de Krebs, de phosphorylation oxydative, ce qui n'est... bon, je le dis là, pas pour m'excuser, mais on n'a jamais dit ça. Et en fait, ce n'est certainement le cas. Il y a des mitochondries dans les astrocytes, on va le voir dans un instant. Donc, si vous voulez, et c'est vrai que sur ce schéma, qui est finalement le schéma Princeps qu'on a proposé, il y avait une mitochondrie ici, mais il n'y avait pas de mitochondrie là. Alors, évidemment, ça nous a été reproché, on nous a fait des procès d'intention. Voilà, les choses sont corrigées maintenant. J'aimerais justement maintenant passer en revue avec vous les évidences qui montrent bien qu'il y a une activité oxydative dans l'astrocyte. Simplement, il y a tout de même une question à se poser. Pourquoi, lorsque l'astrocyte capte un excès de glucose suite à la stimulation glutamatergique, ce que je vous ai montré lors des premières leçons, pourquoi ce glucose n'est pas entièrement oxydé ? S'il y a des mitochondries, en principe, ce glucose, en présence d'oxygène, devrait être oxydé dans l'astrocyte. Or, visiblement, ça n'est pas le cas. Une partie, en tout cas, une grande partie, probablement 80% de ce glucose en sus n'est pas oxydé, bien qu'il y ait tout ce qu'il faut pour oxyder le pyruvate, le produit final de la glycolyse, mais non, il est exporté sous forme de lactate. Donc pourquoi, en fait ça c'est la question toute simple, pourquoi, même s'il y a, et ça c'est des données récentes, un travail très très joli de Lovat et collaborateurs, donc c'est le groupe de Michael Nedergaard, pour ceux qui s'intéressent, à Rochester, qui a fait un travail vraiment remarquable et qui a entre autres démontré, vous voyez toutes ces densités ici, dans ces lamelles, qui sont les lamelles astrocytaires qui entourent les synapses, toutes ces densités ici, ce sont en fait des mitochondries. Et en fait, si vous regardez, enfin, dans cette analyse, il y a en tout cas autant, même si ce n'est plus, de mitochondries dans les astrocytes, dans ces petits processus lamellaires périsynaptiques, que même dans le neuropile en général. Je pense qu'il faut être un peu prudent parce que l'échantillonnage n'est peut-être pas absolument impeccable, mais enfin, l'évidence même, c'est qu'il y a des mitochondries dans l'astrocyte. Donc, question qui se pose, pourquoi, lorsque du glucose est capté par l'astrocyte, en tout cas sous l'effet stimulateur du glutamate, pourquoi ce pyruvate n'entre pas, tout simplement, comme on l'a vu quand on a fait cette brève révision des bases de la biochimie, pourquoi ne s'associe-t-il pas avec l'acétyl-CoA pour produire du citrate et faire tourner le cycle de Krebs? Visiblement, ce n'est pas le cas, en tout cas, qu'une infime partie. Alors, il faut savoir que l'enzyme clé qui permet l'entrée du pyruvate dans le cycle de Krebs, c'est la pyruvate déshydrogénase, la PDH, pyruvate déshydrogénase, une enzyme qui est constituée de nombreuses sous-unités hautement régulées et qui, en fait, comme finalement toutes les enzymes, peut exister, peut être plus ou moins phosphorylée. Et lorsqu'elle est phosphorylée, il se trouve qu'elle est moins active. Donc, il y a pyruvate déshydrogénase peut, comme toutes les enzymes, être plus ou moins active selon son degré de phosphorylation. Eh bien, il se trouve que la pyruvate déshydrogénase astrocytaire est hautement phosphorylée. Ce qui veut dire que finalement, et c'est l'interprétation qu'on en a aujourd'hui, et je vous montrerai quelques évidences pour ça, ce qui veut dire que finalement, en conditions basales, on va dire, elle est pratiquement saturée. Et lorsqu'il y a un flux additionnel de glucose et de pyruvate, finalement, cette enzyme est à son Vmax et ne peut pas prendre en charge, si vous voulez, si on passait l'expression, ce pyruvate, qui est donc un équilibre avec du lactate qui va être libéré. Cet équilibre pyruvate-lactate étant essentiel pour régénérer le NAD qui permet à la glycolyse de continuer. Donc, une des hypothèses qui avait été initialement formulée, d'ailleurs par nous, c'était que cette pyruvate déshydrogénase était saturée en conditions basales. Alors, des travaux très, très clairs, très simples, comme souvent les choses importantes, faits par notamment Louis Sokolov, l'ont montré expérimentalement. Là, je vous rappelle simplement quelque chose que je vous avais montré l'autre jour, c'est qu'en fait, en présence de lactate, la consommation de glucose neuronale diminue, alors que celle des astrocytes est relativement peu affectée. Mais la manip fondamentale est celle-ci. Il est possible d'activer la pyruvate déshydrogénase par du dichloroacétate. Alors, le raisonnement était le suivant. Si, finalement, donc je vous montrais ici que, du point de vue que pour les neurones, pour les astrocytes, voilà, c'était ça que je voulais vous montrer, il y a relativement peu d'activité, enfin, l'oxydation du glucose est relativement, elle est là, mais elle n'est pas très affectée par le lactate, alors qu'elle est très affectée par les neurones. Donc, ce qui montre bien que les neurones, bien sûr, ils consomment du glucose, mais en présence de lactate, Ils préfèrent le lactate. Alors que finalement, les astrocytes ont une activité oxydative relativement faible. Alors, ce que montre Sokolov, c'est que lorsqu'on utilise du dichloroacétate, eh bien, l'oxydation du glucose par les astrocytes augmente de manière importante, de 34%. Également, la capacité d'oxyder du lactate, donc, qui est converti en pyruvate, qui entre ensuite dans le cycle de Krebs, elle augmente. Et tout ça, en miroir, est accompagné par une diminution de la production de lactate. Parce que finalement, si le pyruvate, si on revient ici, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en activant la pyruvate déshydrogénase, eh bien, le glucose va pouvoir entrer via le pyruvate dans le cycle de Krebs. Si on fournit du lactate, ce pyruvate va aussi entrer dans le cycle de Krebs. Donc, il y aura moins de lactate libéré. À noter que le dichloroacétate a un effet aussi chez les neurones, dans les neurones, mais vous voyez qu'il est beaucoup plus petit, ce qui montre bien que les neurones sont déjà très oxydatifs en conditions basales, alors qu'on peut pousser plus loin l'activité oxydative des astrocytes. Et si vous voulez, l'idée est la suivante. Si on réactive la pyruvate déshydrogénase, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, ça, c'est des expériences in vivo, c'est un peu compliqué comme diapo, mais il y a un seul message, je vous le résume dans un instant. Raisonnons de la manière suivante. En conditions in vivo, il y a, lors de l'activation, lors de l'activité, du glutamate qui est libéré par les neurones, du glucose qui entre dans les astrocytes et du lactate qui est utilisé par les neurones. Le raisonnement de Sokolov a été le suivant. Si on fournit du dichloroacétate, on va augmenter l'activité oxydative des astrocytes. Donc, ils vont produire moins de lactate, vu que le pyruvate va rentrer dans le cycle de Krebs. Donc, s'il y a moins de lactate qui est produit, les neurones vont consommer plus de glucose. On a vu que les neurones consomment du glucose, simplement quand il y a du lactate, ils préfèrent le lactate. Et en fait, ce que Sokolov a démontré in vivo, c'est qu'en administrant du dichloroacétate, dans toutes les régions étudiées, la barre noire est en présence de dichloroacétate, vous voyez que la barre noire est partout plus élevée que la barre blanche. Ce qui montre bien que s'il y a moins de lactate disponible, eh bien, il y aura plus de glucose. Donc la barre, ceci indique la consommation de glucose. Donc on voit une première explication à ce paradoxe. Dans l'astrocyte, il y a des mitochondries. Pourquoi n'oxyde-t-il pas entièrement le glucose? La question est simple. La pyruvate déshydrogénase est à son Vmax en conditions basales. Si on arrive à la déphosphoryler par le dichloroacétate, eh bien, l'astrocyte augmente sa capacité oxydative. C'est exactement résumé ici. Donc, si on réactive ici, eh bien, le cycle de Krebs va tourner plus vite. Alors, il y a un moyen d'ailleurs de tester, de mesurer, et ça c'est très important, c'est vraiment un développement, je le reprendrai quand on parlera des conditions pathologiques, c'est un outil probablement qui va se révéler très utile en clinique, je pense, enfin, pour autant qu'il y ait des maladies qui soient liées, et je le pense, à un dysfonctionnement métabolique astrocytaire. Il y a un substrat métabolique qui est capté uniquement par les astrocytes. En d'autres termes, ce que je veux simplement dire, c'est qu'on peut tester directement l'activité du cycle de Krebs en fournissant un précurseur. Alors, vous me direz, on pourrait utiliser du pyruvate. Le problème du pyruvate, c'est qu'il est capté aussi bien par les astrocytes que les neurones. Or, il se trouve que l'acétate est sélectivement capté par les astrocytes. Il y a un très faible captage par les neurones. Bon, ce sont des synaptosomes, il y a, ça c'est le papier original, il y a des travaux récents dans les neurones en culture, donc très peu de captage de l'acétate par les neurones, très important captage par les astrocytes, et là vous avez carrément l'analyse cinétique. Donc, si vous voulez, il y a moyen de tester directement l'activité oxydative de l'astrocyte en fournissant de l'acétate, parce que l'acétate, en fait, il va être converti en acétyl-CoA, et si on le marque par un traceur, on va pouvoir suivre, et notamment si on le marque par du C13, donc un isotope stable, on peut faire de la résonance magnétique en spectroscopie et mesurer l'activité oxydative de l'astrocyte, ce qui est Tout de même, je veux dire, avec cette complexité et cette interrelation, le fait d'avoir un substrat spécifique pour tester l'activité oxydative est important. Alors là, c'est un des premiers papiers qui a montré cela. C'est le groupe de Rotman et Schulman à Yale. Ils ont utilisé, en fait, du C13 acétate et ils ont comparé ça au C13 glucose qui, bien sûr, lui, est capté aussi bien par les astrocytes que par les neurones. Et sans rentrer dans les détails, mais vous avez ici un spectre qui montre, en fait, un pic de glutamine à partir de acétate. Donc la glutamine, vous vous souvenez, c'est le substrat par excellence produit par l'astrocyte à partir du glutamate. Donc par les différents cycles, on peut marquer de la glutamine à partir de l'acétate qui est pris par l'astrocyte, et on verra dans un instant comment cet acétate peut passer en glutamine. Alors que si on donne du glucose, ça c'est le spectre avec du glucose C13, vous voyez qu'il y a très peu de marquage par la glutamine. Alors, par toutes sortes de modélisations, je ne vais pas rentrer dans les détails, ceci permet de, entre autres, valider in vivo, chez l'homme, le fait que l'acétate est capté par l'astrocyte sélectivement. Et juste pour vous rappeler un tout petit peu ces cycles, c'est un peu compliqué, mais en fait, finalement, pas tellement. Vous avez ici, on reprend le pyruvate, donc la fin de la glycolyse, qui peut s'associer à l'acétyl-CoA et produire du citrate. Ensuite, vous avez le cycle de Krebs qui tourne. Vous vous souvenez qu'il y a une perte potentielle de carbone parce que l'alpha-cétoglutarate est en équilibre avec le glutamate. Donc, il y a du alpha-cétoglutarate qui sort du cycle de Krebs, ce qui fait qu'il y a des pertes. Et vous vous souvenez qu'il y a ce qu'on a appelé le cycle anaplérotique. C'est le pyruvate qui peut être transformé en oxaloacétate et régénérer directement les carbones qui ont été perdus au niveau de l'alpha-cétoglutarate, ce qui permet au cycle de Krebs de tourner. Et puis, il y a cet alpha-cétoglutarate, justement, qui est en équilibre avec le glutamate, qui lui-même est en équilibre avec la glutamine. Et donc, vous voyez que si on fournit de l'acétate marqué, notamment en C2, cet acétate va être transformé en acétyl-CoA, et il y aura régulièrement des pertes et on va retrouver ce carbone en glutamine. Donc c'est comme ça qu'on peut finalement, par la modélisation appropriée, retrouver ce pic que je vous ai montré. Donc tout ça, c'est simplement pour corriger le tir, si vous me permettez. J'ai quand même effectivement mis beaucoup l'accent sur l'activité glycolytique de l'astrocyte. Je pense qu'il est important de dire qu'il y a également une activité oxydative. Il y a des mitochondries, il y a un cycle de Krebs et qu'en plus, il est possible de le tester quantitativement en utilisant l'acétate comme précurseur. Alors, je vais conclure rapidement sur cette partie concernant l'activité oxydative de l'astrocyte en décrivant brièvement un travail qui est vraiment excellent. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, lorsque j'ai montré ces mitochondries dans les lamelles astrocytaires, c'est le travail de Lovat, donc de ce groupe de Mike et Nedergaard. Ils ont effectué une série de manips vraiment très élégantes. Ils ont en fait utilisé une technique qui permet, en fait, des souris transgéniques qui surexpriment en fait une protéine fluorescente, Green Fluorescent Protein, GFP, qui est sous contrôle du promoteur GFAP. La GFAP, c'est une protéine sélective, certains de vous le savent certainement, du cytosquelette qui est sélectivement exprimée dans les astrocytes. Donc c'est une manière, finalement, d'avoir une souris qui aura une grande partie d'astrocytes fluorescents. Ce qui veut dire que si on dissocie notamment le cortex, si on dissocie les cellules, et qu'on les récolte par des techniques, notamment de fax, c'est une manière d'identifier des cellules selon leurs propriétés de fluorescence, notamment, ou toutes sortes de marqueurs, eh bien, on peut enrichir, on peut sélectivement constituer une population d'astrocytes. Parce que c'est clair, quand on étudie le cerveau tel quel, évidemment, dans les tranches, par exemple, si on fait de la biochimie sur tranches, eh bien, on ne sait pas si ce que l'on voit se passe dans l'astrocyte ou dans les neurones. Donc là, avec cette technique, il est possible de sélectivement constituer, pour purifier, on va dire, une population d'astrocytes. Et ce que ce groupe a fait ensuite, il a étudié on appelle ça des DNA arrays, c'est-à-dire c'est une manière de pouvoir analyser les messagers exprimés dans une cellule, dans un type cellulaire, enfin dans un ensemble de cellules, et de voir donc le profil d'expression de gènes, pour simplifier, de spécifiques des astrocytes. Et ils ont évidemment focalisé ça sur les aspects métaboliques. Et ce qu'ils ont vu, déjà la première observation intéressante, une analyse quantitative, relative en fait, de l'expression, enfin des gènes qui sont exprimés dans les astrocytes. Donc on a maintenant cette préparation hautement purifiée, et ce qui est regardé, c'est l'expression, le profil d'expression de gènes. Et en fait, ce que l'on voit, ce qui n'est pas étonnant, c'est que 35% des gènes exprimés par l'astrocyte sont des gènes qui ont à voir avec le métabolisme cellulaire. Il y en a qui ont à voir avec le développement et une bonne partie aussi pour les phénomènes de transport. Et vous voyez que tout ça rend compte de 55 à 60% des gènes. Ça, c'est une première observation assez comme ça, générique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont justement repris le niveau d'expression des gènes. Vous reconnaissez ici la glycolyse. On part du glucose, on arrive au pyruvate lactate à travers toutes les échelles, les étapes. Et pour faciliter, ils ont comparé les niveaux d'expression de ces gènes dans les astrocytes et dans les neurones qu'ils ont purifiés par des techniques analogues. Donc, ils avaient la possibilité de voir quel était finalement le profil métabolique en termes d'expression de gènes de l'astrocyte et du neurone. Et comme la clé, le code est ici, ce qui est en rouge, c'est que ce sont des gènes qui sont beaucoup plus exprimés dans les astrocytes, ce qui est en orange, qui sont plus exprimés dans les astrocytes, en jaune, pas de différence, en vert, plus dans les neurones, et en bleu, encore plus dans les neurones. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'essentiellement, pour ce qui est des gènes de la glycolyse, ils sont pas mal entre le rouge et l'orange, ce qui ne nous surprend pas. Il y a donc une activité tout de même glycolytique importante au niveau de l'astrocyte. Et j'aimerais juste attirer votre attention sur quelque chose que nous avions démontré il y a une dizaine d'années par immunohistochimie. C'est les deux isoformes de la lactate déshydrogénase, qui est l'enzyme qui contrôle, en partie en tout cas, les échanges en pyruvate et lactate. Et vous vous souvenez qu'il y a une forme, la LDH2, nous l'appelions la 5, ou d'autres l'appellent aussi la 5, qui est plus exprimée dans les tissus comme le muscle qui produisent du lactate. Et il se trouve que nous avions montré qu'elle était plus exprimée dans les astrocytes, c'est la LDH5. Vous voyez que ça marquait très bien les astrocytes, et c'était les seules cellules qui étaient marquées, alors que la LDH1 est exprimée dans des tissus comme le cœur, qui consomment du lactate, et nous avions montré qu'effectivement, elle est plus exprimée, elle est considérablement plus exprimée dans les neurones que les astrocytes. Donc, on retrouve ici, au niveau de l'expression des gènes, une image, c'est plutôt rassurant, de ce que nous avions montré au niveau de la protéine. Donc, tout ça pour dire simplement que cette analyse hautement spécifique, vu qu'elle est faite sur une population purifiée à partir d'animaux adultes, donc il n'y a pas d'artefacts de culture possible, c'est vraiment l'état des cellules in situ. Il y a des gènes glycolytiques qui sont hautement exprimés dans les astrocytes. Mais il se trouve que... Oui, et encore un dernier point pour valider cette observation d'expression de gènes par des données fonctionnelles. Ce qu'ils ont pu montrer, c'est tout simple, ils ont simplement regardé si on donne comme précurseur du glucose aux astrocytes, qu'est-ce qui ressort, et ils voient qu'en fait, il y a beaucoup de lactate qui est produit, ce que nous savions déjà, mais en fait, si vous voulez, ça a été fait sur des cellules fraîchement isolées, donc correspondant à l'état in situ. Alors, ils ont fait la même analyse, bien sûr, pour les gènes du cycle de Krebs, et ce que vous voyez, c'est qu'il y a pas mal de rouge aussi et pas mal d'orange aussi, ce qui montre bien que il y a des, certainement une forte expression de gènes pour le cycle de Krebs et l'activité oxydative. Donc, je crois, tout ce que je voulais faire aujourd'hui, parce que je pensais qu'il fallait quand même, je ne dis pas corriger le tir, mais compléter le tableau. J'ai beaucoup mis l'accent sur le profil glycolytique des astrocytes. Ce qu'il faut réaliser, c'est que les astrocytes ont aussi une capacité oxydative. Et j'aimerais juste, alors là, on en a déjà assez parlé, je ne vais pas m'étendre, vous retrouvez tous les intermédiaires du cycle de Krebs avec ce fameux alpha-cétoglutarate qui est en équilibre avec le glutamate. Vous avez ici l'enzyme qui est la glutamate déshydrogénase ou l'aminotransférase selon du côté où on se pose, donc qui régit cet équilibre. Et puis ici, la formation de glutamine à partir de glutamate. Donc on retrouve tout ça. Par contre, par exemple, ça c'est intéressant, vous voyez, bleu, c'est beaucoup, beaucoup plus exprimé dans les neurones. C'est la GAD, la glutamic acid décarboxylase, donc la décarboxylase du glutamate, qui est l'enzyme essentielle pour la synthèse de GABA, le neurotransmetteur inhibiteur. Et en fait, elle n'est pratiquement exprimée que dans les neurones GABAergiques, les neurones qui... donc c'est vraiment la voie de synthèse du GABA, du neurotransmetteur inhibiteur, et en fait, on trouve très peu exprimée cette enzyme dans les astrocytes. Juste un tout petit point là autour pour conclure cette incursion un peu en profondeur dans les voies métaboliques spécifiques au type cellulaire. On retrouve ici également pyruvate oxaloacétate, c'est cette enzyme-là, c'est la pyruvate carboxylase qui permet, donc c'est cette voie anaplérotique qui permet de reconstituer les carbones dans le cycle de Krebs parce que suite à la perte ici, évidemment, pour que le cycle tourne, il faut refournir en oxaloacétate. Et puis, vous avez ici une autre voie dont je ne vous ai pas encore parlé, mais qui est une voie très importante. Il y a aussi une possibilité d'entrer du pyruvate à ce niveau-là, au niveau du malate, donc avant l'oxaloacétate. C'est ce qu'on appelle la voie de l'enzyme malique, qui est une voie intéressante parce que, en fait, elle contribue au maintien du potentiel redox. Vous voyez qu'il y a ici équilibre entre NADP et NADPH. Donc cette voie de l'enzyme malique, il faut simplement avoir à l'esprit que le pyruvate peut aussi, bien sûr, fournir des carbones par ce biais-là, mais aussi fournir des équivalents réducteurs. Et elle est donc importante dans ce grand tableau que j'essaye de vous brosser au niveau de... non seulement de la production d'ATP, mais également du maintien de l'équilibre redox. Bien. Alors, maintenant, un dernier mot sur une observation que je trouve très intéressante, parce que finalement, j'ai beaucoup insisté, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le rôle de l'astrocyte dans la fourniture d'énergie aux neurones, par tous ces cycles que je vous ai décrits, l'énergie sous toutes ses formes d'ailleurs. Mais il y a une observation qui a été faite récemment d'ailleurs ici à Paris pour ce qui concerne, et je crois qu'il faut l'évoquer, il faut y réfléchir, pour la fourniture d'énergie pour le maintien de la transmission inhibitrice GABAergique. Je vous ai évoqué la question fondamentale du coût de la transmission inhibitrice. Est-ce que ça coûte moins cher, plus cher, pas du tout, que la transmission excitatrice au glutamate? Je reviens toujours sur l'idée qu'il y a 85% de neurones et de synapses glutamatergiques, donc c'est clair que c'est quand même l'élément prépondérant en termes de coût énergétique, mais il y a tout de même 10 à 15% de neurones inhibiteurs qui vont aussi en partie dissiper des gradients électrochimiques. Donc, j'ai discuté tout ça ces dernières fois, comme ça, en filigrane. Et je vous ai proposé différentes possibilités par lesquelles de l'énergie pourrait être fournie aux neurones GABAergiques. Mais en fait, il y a une observation très intéressante qui montre qu'une enzyme de la glycolyse, la glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase, la GAPDH, est en fait, qui est donc une enzyme clé de la glycolyse est associé au récepteur, à une sous-unité du récepteur GABA. Vous avez ici des colocalisations, donc c'est des travaux de Lash et collaborateurs. Vous avez ici la sous-unité alpha 1 du récepteur au GABA A et l'expression de cette enzyme, la GAPDH, glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase. Et en fait, vous voyez qu'il y a un fort degré de colocalisation. Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Alors, je résume rapidement le travail. Mais en fait, ce que ces chercheurs ont montré, c'est qu'en fait, cette GAPDH a une double fonction. Elle a une fonction d'enzyme de la glycolyse, donc pour la fourniture d'énergie, mais en même temps, elle a une fonction de phosphorylation de la sous-unité alpha 1 du récepteur GABA. Donc une double fonction. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une double fonction, mais coordonnée. Parce que pour phosphoryler une enzyme, il faut de l'ATP. Et là, la GAPDH, en fait, produit de l'ATP. C'est une des étapes au niveau de laquelle, enfin, qui permet la production d'ATP, enfin, du précurseur qui va fournir de l'ATP à l'étape suivante, la phosphoglycérate kinase. Donc c'est intéressant parce que la même molécule va permettre de fournir de l'ATP. Et en même temps, d'utiliser cet ATP pour phosphoryler une sous-unité du récepteur GABA. Et tout ça a une implication fonctionnelle, parce qu'en fait, vous voyez que ce récepteur désensibilise, vous avez ici le courant, et si on maintient l'activation GABAergique, eh bien, on voit qu'il y a ce qu'on appelle un rundown, une perte d'efficacité de ce récepteur, en présence soit de glycéraldéhyde 3-phosphate, soit de NADH et de GAPDH, eh bien, il n'y a pas de rundown, le courant médié par ce récepteur est maintenu. Donc, visiblement, cette étape enzymatique qui fournit de l'énergie et phosphoryle le canal est très importante pour le maintien de la transmission GABAergique. Donc, on voit là qu'il y a en tout cas une voie additionnelle possible pour la fourniture d'énergie, pour le maintien de l'activité inhibitrice. Bien, j'aimerais maintenant aborder quelque chose de nouveau, après avoir fait ce tour extensif des différents cycles. J'aimerais aborder un aspect qui caractérise le métabolisme astrocytaire, et c'est ceci. Vous voyez des tas de petits grains noirs. Dans l'astrocyte, vous avez ça, c'est une microphotographie. Vous reconnaissez ici, en fait, un pied astrocytaire. Donc, ces processus astrocytaires qui recouvrent les capillaires, le capillaire étant ici. Vous avez la cellule endothéliale ici. Et puis, vous avez ici le neuropile, c'est-à-dire avec des profils présynaptiques, postsynaptiques, des mitochondries, etc. Et puis, ce que vous voyez ici, ce sont ces grains denses, électrons denses, qui en fait correspond à des grains de glycogène. Et j'aimerais juste dire que cette image a été prise dans des conditions expérimentales particulières pour accentuer la présence de ces grains de glycogène. C'était après 3 heures d'anesthésie au phénobarbital. Et c'est une des manières de visualiser, d'optimiser la visualisation de ce glycogène, c'est chez l'animal anesthésié. Ce qui montre bien qu'il y a quelque chose, là, je vous le lance comme ça, on le reprendra sous un autre angle plus tard, c'est que, en fait, un état d'anesthésie ou de sommeil pharmacologique a un effet important sur le métabolisme du glycogène. Il y a une accumulation de glycogène dans ces conditions. Mais en fait, ce que ce diagramme, cette diapositive veut essentiellement montrer, c'est que au niveau du système nerveux central, presque tout le glycogène est stocké dans les astrocytes. Il n'y a pratiquement pas de neurones qui contiennent de glycogène. Il y a quelques gros neurones dans le tronc cérébral qui contiennent un peu de glycogène. Il y a des cellules ependimères donc, qui longent les ventricules. Mais essentiellement, le 95% du glycogène cérébral est contenu dans les astrocytes. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce contenu en glycogène est très faible par rapport aux muscles ou au foie. Essentiellement 100 fois inférieur au foie et 10 fois inférieur aux muscles. Donc, c'est clair que le cerveau n'est pas un organe de stockage du glycogène, sauf dans certaines pathologies, les glycogénoses, la maladie de McArdle, la maladie de Pompe, où il y a des déficits mentaux dus à, entre autres, enfin, qui s'accompagnent d'accumulation de glycogène dans les astrocytes et les neurones. Donc, en conditions normales, il y a peu de glycogène dans le cerveau et il est exclusivement astrocytaire. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est une des choses, et ça ne me rajeunit pas, parce que c'est un de mes premiers travaux, il y a bientôt 25 ans, lorsque j'étais doctorant, j'avais mis en évidence des mécanismes de régulation des niveaux de glycogène au niveau cérébral. Et en fait, une des conclusions de cet article, où on avait montré qu'un peptide, le VIP, Vasoactive Intestinal Peptide, j'en parlerai plus en détail dans un moment, et la noradrénaline, norépinéphrine en américain, stimulaient la glycogénolyse. Qu'est-ce que ça veut dire, la glycogénolyse? Ça veut dire que, en fait, à partir du glycogène, sous l'effet de second messager qui est la AMP cyclique, des unités glycosyles sont libérées. Et donc, en fait, c'est une manière de mobiliser de l'énergie qui était stockée sous forme de glycogène. Donc, ce qu'on avait montré, c'est que deux neurotransmetteurs, le VIP et la noradrénaline, donc des molécules des neurotransmetteurs contenues dans des neurones, pouvaient stimuler la mobilisation d'énergie. Et on avait proposé qu'en fait, ces deux neurotransmetteurs, le VIP et la noradrénaline, qui sont en fait au niveau périphérique des hormones, le VIP est contenu dans des cellules endocriniennes à la périphérie et ou neuroendocriniennes, ont en fait aussi des effets glycogénolytiques dans les tissus périphériques. Et on avait proposé à l'époque que, en fait, il y aurait certaines substances qui ont des rôles de type hormonal, endocrinien dans les tissus périphériques, pourraient jouer des fonctions homéostatiques semblables au niveau cellulaire, au niveau du système nerveux, mais bien sûr avec une grande précision spatiale et temporelle qui est donc inhérente à la neurotransmission, c'est-à-dire qu'ils sont libérés lorsque des neurones sont actifs. Donc l'idée, c'était que peut-être au niveau du système nerveux, il y aurait une sorte de système endocrinien endogène, endocérébral, qui modulerait la disponibilité de substrats énergétiques. Et donc, ce que l'on avait montré, c'est que le VIP stimulait la glycogénolyse, donc la mobilisation de glycogène. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en même temps qu'on avait observé et décrit ce phénomène biochimique, on avait étudié la structure, la morphologie des neurones à VIP. Et vous avez ici une coupe frontale de cortex cérébral, de rat, et vous voyez que ces neurones sont très particuliers. Là, vous avez le schéma, mais si vous regardez les données originales, vous voyez que ces cellules ont un corps cellulaire ovoïde, un processus qui monte vers la pimaire avec une certaine arborisation dans la couche 1, et puis un autre processus qui procède vers les couches profondes du cortex. Donc, si vous voulez, des cellules bipolaire, radiale. Et d'ailleurs, elles avaient quelque chose d'intéressant. On observait souvent que il y avait ce qu'on pouvait croire comme étant un axone n'émergeait pas du corps cellulaire, mais d'un des dendrites, souvent le dendrite basal, ce qui est quand même particulier. Donc, essentiellement, le 95% des neurones à VIP dans le cortex cérébral ont cette disposition morphologique. Et puis, on avait en fait fait une analyse quantitative. C'était à l'époque qu'il n'y avait pas autant de techniques de reconstruction tridimensionnelle. Ce qu'on avait fait, on avait fait des coupes tangentielles, comme ça, et on les avait les mises les unes au-dessus des autres, parce que comme ces neurones étaient radio, on s'est dit, on va pouvoir reconstituer comment ces neurones, même s'ils sont radio, peuvent en fait occuper tout le volume cérébrale. Et là, vous voyez tout simplement que si on se met dans la couche 3-4 où il y a les corps cellulaires, on voyait ces corps cellulaires coupés horizontalement. Si on se mettait dans la couche 1, on voyait ces dendrites ces dendrites apicaux ici qu'on coupait dans ce plan. Alors, comme je vous ai dit, on a finalement reconstitué en trois dimensions sur toute l'étendue corticale, ou en tout cas sur les 600 premiers microns de l'épaisseur corticale, la disposition de tous ces corps cellulaires à VIP. Et en fait, si on met on fait une analyse quantitative la densité de ces corps cellulaires par rapport à l'arborisation dans les couches superficielles, sans rentrer dans les détails, mais ce que vous voyez, c'est qu'en fait, essentiellement, il y a, disons, la surface ou le volume qui aurait n'aurait pas de cellules à VIP à un diamètre, ce serait un cylindre de 60 à 90 microns, et qu'en fait, l'arborisation de ces cellules fait à peu près 60 à 100 microns. Donc, ça veut dire tout simplement que ces neurones à VIP définissent des colonnes de cortex cérébral. Vous avez ici ce neurone à VIP radial, bipolaire, avec cette arborisation dans les couches superficielles et un tout petit peu dans les couches profondes. Et que donc, on peut dire que tout le cortex est, entre guillemets, couvert, ou disons que les neurones à VIP couvrent toute l'étendue de l'écorce cérébrale. Et sur la base de l'action biochimique, qui était la glycogénolyse, on s'était dit, eh bien, ces neurones sont idéalement positionnés pour pouvoir mobiliser du glycogène, donc de l'énergie, à l'intérieur de colonnes de cortex cérébral. Et ce que l'on a su ensuite, c'est qu'en fait, c'est des travaux d'autres, de Peters notamment, c'est que ces neurones à VIP reçoivent des afférences, ils sont activés par notamment des afférences soit qui proviennent du thalamus, soit d'autres régions corticales. Donc, en d'autres termes, chaque fois qu'un volume de cortex est activé par des stimulations périphériques ou par des connexions d'association entre les différentes aires corticales, les neurones à VIP vont être activés. Donc, quand il y a un message d'activation qui arrive dans une région corticale, du VIP va être libéré et ceci va aboutir à la mobilisation d'énergie à partir d'astrocytes. C'est intéressant de noter que on avait, si vous voulez, contrasté cet effet du VIP extrêmement radial, limité dans des volumes corticaux hautement spécifiques, à l'effet de la glycogénolyse induite par la noradrénaline que j'ai représentée ici, ces fibres noradrénergiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous prenez c'est un cerveau de rongeur, on vient de voir ici ces neurones à VIP qui activent une colonne de cortex et qui sont activés par des afférences spécifiques. Le système noradrénergique, et il a été notamment étudié beaucoup ici au collège par le groupe de Jacques Glowinski, eh bien, ce système noradrénergique est complètement différent dans son organisation. Les corps cellulaires se trouvent dans le tronc cérébral, essentiellement tous dans le locus ceruleus, et ensuite ils projettent de manière très diffuse à travers pratiquement tout le cerveau et certainement dans les corps cérébrales. Et là, ils ont une trajectoire assez particulière. Ils entrent en fait par le pôle frontal et ensuite procèdent de manière tangentielle, horizontale, à travers toute l'écorce du pôle frontal vers le pôle occipital. Ce qui veut donc dire qu'un groupe de fibres noradrénergiques, lorsqu'elle est activée, va en fait avoir une action globale, contrairement aux neurones à VIP qui, eux, vont agir sélectivement dans des colonnes de cortex. Et en fait, on avait proposé que cette disposition anatomique des neurones noradrénergiques permettait de mobiliser globalement des substrats énergétiques par l'effet glycogénolytique à travers tout le cortex, comme une sorte de préparation, si vous voulez, de l'écorce cérébrale à des stimuli qui devraient arriver. Et il est intéressant de noter que depuis, en fait, différents auteurs ont décrit les circonstances comportementales dans lesquelles les noyaux du locus le locus ceruleus est activé, Ce locus coeruleus est notamment activé par des stimuli inattendus, sensoriels, de différentes origines, de différentes modalités, pardon. Donc, c'est en fait, ce locus va, c'est un système, si vous voulez, de préparation, d'activation de l'écorce cérébrale, et on voit que, disons, c'est tout à fait cohérent avec l'idée que ce système va mobiliser des substrats énergétiques globalement, indépendamment de la modalité. L'idée étant que la spécificité par rapport à la modalité viendra de ces afférences spécifiques qui, elles, vont activer des neurones bipolaires corticaux. Et en fait, je ne vais pas le montrer, mais nous avions décrit ensuite une synergie entre les neurones entre le VIP et la noradrénaline pour créer ce qu'on avait appelé des hotspots métaboliques corticaux à l'intersection du système noradrénergique global qui active le cortex globalement et un groupe de neurones AVIP activés par des afférences spécifiques. Donc, vous voyez que là, il y a une correspondance intéressante entre la disposition anatomique, l'effet biochimique, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, là aussi, la cible est l'astrocyte. Ces effets de ces systèmes neuronaux convergent sur l'astrocyte, qui est le seul type cellulaire qui contient du glycogène. Et en fait, ceci je vais revenir là-dessus la prochaine fois, qu'on arrive au bout, mais juste pour vous laisser avec l'idée que ceci n'est pas seulement correspondant à un modèle ou des observations in vitro, mais le groupe de Ray Swanson, notamment, a montré quelques années après que en utilisant une technique qui est une modification de la technique du 2-déoxyglucose radioactif, c'est de la radioautographie, on regarde l'accumulation, dans ce cas, de glycogène, de grains de glycogène, par radioautographie. Et vous avez ici l'image importante, c'est-à-dire que tout ce qui est rouge, jaune, dénote des niveaux élevés de glycogène, en tout cas de radioactivité associée au glycogène, développée par radioautographie, et là où c'est bleu, ce sont des niveaux inférieurs. Donc, il y a moins de glycogène. Et ce que Swanson et ses collègues ont démontré, c'est qu'en stimulant le système des vibrisses, dont je vous ai déjà parlé à quelques reprises, c'est-à-dire en stimulant ce système somatosensoriel organisé de manière hautement topographique, pour chaque vibrisse, un baril correspondant, eh bien, la stimulation de ces vibrisses amène à une baisse du contenu en glycogène dans le cortex somatosensoriel correspondant. Alors, dans ses études, la résolution n'a pas permis de visualiser la vibrisse correspondante au baril correspondant. C'est plutôt un groupe de vibrisses qui a été activé et une diminution globale dans le champ des barils qui est diminuée. Mais vous voyez que donc il y a une utilisation du glycogène en réponse à à une stimulation sensorielle. Et là, comme le glycogène est seulement astrocytaire, on voit vraiment, c'est une manifestation très claire de cette interaction métabolique neurone-gly, la mobilisation de glycogène à partir d'astrocytes lors de l'activation somatosensorielle. Donc, voilà pour cette introduction sur le glycogène, et je continuerai mardi prochain. Voilà.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.